Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast consacré à l'hypnose. Alors pourquoi ce podcast? Pourquoi ce thème? Simplement car je remarque encore de fausses croyances liées à cette pratique et la peur des personnes qui n'osent pas franchir le pas. Alors rassurez-vous, tout premièrement, l'hypnose thérapeutique n'a rien à voir avec l'hypnose de spectacle. Donc qu'est-ce qu'exactement l'hypnose? De base, et ça va peut-être vous surprendre, on a découvert que l'hypnose, contrairement aux idées reçues, est un état naturel dans lequel nous rentrons toutes les 90 minutes en moyenne. Alors cela paraît un petit peu étrange, je vous l'accorde, mais effectivement, sans même le savoir, on se met tous régulièrement dans des états de conscience modifiés. Oui, car l'hypnose, vous l'avez bien compris, se définit largement comme un état de conscience modifié. Ainsi, lorsqu'une personne est dans un état d'hypnose de conscience modifiée, ses propres perceptions sont différentes par rapport à d'habitude. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Là, j'imagine que vous pensez plutôt au spectacle, vous imaginez des choses incroyables, alors non, pas du tout. Ça va être un petit exemple tout simple qui va être très parlant pour la majorité des personnes qui écoutent ce podcast, je l'espère. Lorsque par exemple, je vous parle d'auto-hypnose ou de cette capacité naturelle qui fait que notre cerveau se met en état d'hypnose régulièrement et quotidiennement, sans même que vous le réalisiez, ça va être par exemple tous ces moments en voiture. Vous allez être en voiture, vous allez être absorbé par vos pensées, par vos idées, vous imaginez des choses, vous serez peut-être tracassé par un sujet en particulier, et là vous arrivez à destination. Et il y a ce moment où vous ne rappelez plus de la route. Vous n'avez plus la perception du temps qui s'est écoulé. Vous étiez tellement absorbé dans vos idées que vous n'avez pas fait attention à la route ni au temps qui s'est écoulé. Ça, c'est un état modifié de conscience. Ça va être également à chaque fois que vous allez regarder un bon film ou une série et que vous allez ressentir les émotions, que vous allez vivre chaque scène comme si vous y étiez. Ça va être tous ces moments où vous allez être absorbé par le film et ne plus voir tout ce qui vous entoure, le temps qui passe. C'est de l'hypnose. C'est la sensation que plus rien autour n'existe à part ce que vous êtes en train de visualiser. Ni le temps, ni l'espace. C'est à chaque fois aussi que vous allez lire un bon roman, un livre, et que vous allez avoir l'impression d'y être, de vivre l'histoire, le moment, les émotions. Donc vous voyez finalement, sans même le savoir, vous connaissez déjà parfaitement l'état d'hypnose, l'état de conscience modifié. Et c'est comme ça que la plupart des thérapeutes qui font appel à l'hypnose pour soigner ou accompagner leurs patients ont tendance à privilégier l'état de conscience afin que la personne soit maître de sa transformation, de sa guérison. Donc ne vous inquiétez pas, on ne peut pas vous forcer à faire quelque chose qui est contraire à votre éthique. Ce n'est pas possible. Vous avez toujours cette part de conscience qui est présente. Le but étant que la personne réalise qu'elle est la seule à l'origine de son évolution et de comprendre comment elle a réussi à transformer ce qui lui posait problème dans sa réalité. Les caractéristiques de cet état d'hypnose peuvent être différentes selon la sensibilité de la personne, du patient, et selon sa problématique. Cela peut être par exemple une perte des repères spatio-temporaires, ça peut être des hallucinations, de l'anesthésie, ça peut être un très grand calme, un lâcher-prise, une détente musculaire. Donc finalement l'état d'hypnose en lui-même dépend énormément de la personnalité du patient, du contexte, de la méthode employée, des suggestions faites et de la profondeur de l'induction hypnotique. Il est important alors que vous avez à que vous ayez une bonne communication avec votre hypnothérapeute afin d'envisager ensemble un accompagnement qui fasse sens pour vous, un accompagnement qui respecte vos envies mais aussi vos besoins. Personnellement, et ça n'engage que moi, c'est l'état où enfin on s'écoute nous. On n'écoute plus ce cerveau formaté, intellectualisé, pardon, rempli peut-être de peurs, d'idées reçues, d'images imaginaires. Mais on apprend un petit peu à s'écouter nous. On est attentif à nos propres perceptions, nos envies, nos failles, nos besoins, nos manques. Et on arrive ensuite à comprendre nos automatismes, nos différents fonctionnements, ce qu'on a mis en place et pourquoi on les a mis en place. On se concentre enfin sur son soi véritable, sans se laisser polluer par des images illogiques qui peuvent peut-être nous impacter, sans nous laisser peut-être envahir par notre propre jugement. On se reconnecte à son corps terrestre, mais aussi à son corps spirituel, à ses ressentis, aux souvenirs de nos propres émotions, ce que nous passons beaucoup trop de temps, je trouve, à refouler, à cacher, ou ne pas écouter, car le cerveau logique, il trouve toujours une raison, une explication, comme par exemple, on va se dire, il y a pire, c'est pas grave, arrête de pleurer, tu vas être jugé, bref. Tout pour cacher aussi la sensibilité émotionnelle que nous avons, qui aujourd'hui peut être mal perçue, surtout dans le milieu professionnel. Donc, avec cet état hypnotique, on ne peut pas cacher ses émotions à soi-même. En hypnose, on aime les émotions. On aime les émotions et c'est important, les émotions. Car tout ce qui n'est plus dedans, et dehors, à sa bonne place. Donc on va les libérer, on va les laisser sortir, mais de manière écologique. Je pense qu'il ne faut pas qu'on en soit gêné par ces émotions-là, parce que c'est beau. C'est ce qui nous rend différents des robots, de l'intelligence artificielle, du fonctionnement que l'on appelle inhumain. Vos émotions vous prouvent que vous êtes vivant, empathique, et vous permettent un apprentissage sans fin, sans limite. Donc finalement, dans cet état modifié de conscience, je pense qu'on se concentre sur soi. On est enfin seul, avec soi-même, en toute transparence et en toute honnêteté. On ne peut pas se mentir à soi-même. D'ailleurs, Jean Godin, qui est un spécialiste français de l'hypnose ericksonienne, définit l'hypnose comme un mode de fonctionnement psychologique dans lequel un sujet, donc un patient, parvient à faire abstraction de la réalité qui l'entoure, tout en restant connecté à certains stimulus, comme la voix de l'hypnothérapeute par exemple, ou de la musique. Et ce débranchement de la réaction d'orientation à la réalité extérieure qui suppose un lâcher-prise équivaut à une façon différente de fonctionner, à laquelle on se réfère comme à un état de conscience donc modifié, c'est-à-dire différent. Donc effectivement, nous sommes connectés au monde, à ce qui nous entoure à travers nos sens. Notre cerveau va traiter les informations perçues par nos sens, par d'un côté le circuit du conscient, et de l'autre côté, le circuit de ce que l'on appelle l'inconscient, le subconscient. Donc le conscient, nous avons l'habitude de le maîtriser, de l'utiliser. Cela va être notre cerveau logique, intellectualisé. Lorsque l'on va définir les choses intellectuellement, logiquement, techniquement, l'inconscient, c'est quelque chose qu'on a beaucoup plus de mal à expliquer, à mettre dans des cases logiques, car il fait appel à nos ressentis émotionnels et du coup nos logiques. Et en plus, elles sont différentes par rapport à chaque personne. Ces émotions peuvent mettre en place des comportements qui deviennent peut-être contraignants, par exemple des crises d'angoisse, du stress, de l'anxiété, des crises de panique, de la peur, des phobies, des troubles du sommeil, de la fatigue, de l'anorexie, de la boulimie. De plus, notre perception peut mettre en place certains automatismes. Par exemple, lorsqu'on va se brûler en touchant un objet chaud, on va tout de suite avoir le réflexe de retirer notre main avant même que la douleur arrive à notre cerveau, à notre perception. Cela va être une perception de comportement réflexe mis en place par le corps et l'inconscient pour se protéger. Des études qui ont été menées sur le subconscient se sont aussi attardées sur les rêves. Parce que le rêve est un acte totalement inconscient. Vous ne maîtrisez pas vos rêves. Vous voyez ? D'ailleurs, l'inconscient va déconnecter le cervelet de la moelle épinière lorsqu'on va rêver, afin d'éviter que lorsqu'on rêve, par exemple, que l'on danse, on se mette réellement à danser. Donc, vous voyez, on vient de comprendre que l'état de transe, l'état d'hypnose ou de conscience modifiée est quelque chose de finalement simple et naturel. C'est quelque chose de familier. On va voir maintenant comment, grâce à des inductions, des suggestions, nous pouvons modifier certaines perceptions. Des inductions, vous en percevez quotidiennement et en transe. Donc souvent j'entends cette crainte. Oui, mais si l'hypnothérapeute me suggère des choses que je ne veux pas faire, alors attention là aussi, vous n'êtes susceptible qu'aux suggestions que vous souhaitez évidemment prendre. Moi, par exemple, pour mes séances d'hypnose, je précise bien, c'est l'induction première que je fais, que la personne choisit ce qu'elle souhaite prendre ou pas dans les inductions, les suggestions que je lui envoie. Je lui dis clairement qu'elle doit choisir ce qui est en adéquation avec son éthique, avec sa manière de vivre, avec elle. Vous recevez tous les jours des inductions hypnotiques, tous les jours. Ça peut être venant des publicités, des films, des informations, des médias, de votre entourage, de l'école. Bref, des inductions hypnotiques, vous en avez partout autour de vous et de manière quotidienne et permanente. Et si finalement le rôle principal de l'hypnothérapeute était de vous déshypnotiser de vos inductions trop perçues et de vous permettre peut-être de repartir avec vos propres ressentis qui vous permettront d'être en accord et en paix avec vous, avec votre propre fonctionnement. Parce que vous savez, des techniques d'induction, vous l'avez compris, elles sont très variées. Elles sont très très variées. Si je vous parle de techniques d'induction au niveau des pubs, des médias, des films, des romans, c'est que c'est ça aussi. Donc vous voyez, elles sont partout et de toutes sortes. Mais elles font tout appel à la perception sensorielle par l'inconscient. Ça, c'est vraiment leur point commun. Par exemple, on va stimuler votre induction visuelle. Elle sera stimulée par les films, les spectacles. Ça va vraiment faire appel à ça, à tout ce que vous allez voir. Les inductions auditives seront facilement transmises par des discours des politiques, par un cours magistral ou un hypnothérapeute pour le coup. Et les inductions émotionnelles, quant à elles, seront facilement imprégnées par des sentiments comme la peur, la joie, l'anxiété, le stress. D'ailleurs, les médias utilisent à outrance la peur et l'anxiété pour vous induire des messages. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui vous est finalement très familier. Vous voyez, l'hypnose est surtout une pratique, un outil qui facilite la thérapie et l'accompagnement. Du coup, elle a cette capacité à s'intégrer très facilement à toute approche thérapeutique, à l'approche humaniste, les thérapies cognitives ou comportementales, les thérapies brèves. Plusieurs spécialistes, d'ailleurs, vont définir l'hypnose comme un outil permettant d'accéder aux ressources inconscientes, de contourner les blocages et de permettre l'émergence de nouveaux comportements plus créatifs pour la vue du sujet. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est très large. Personnellement, j'utilise principalement dans les accompagnements que je fais l'hypnose ericksonienne qui va permettre au patient d'être acteur de sa guérison. Pour moi, il me semble important que la personne arrive à comprendre ses propres fonctionnements et avoir conscience de ses modifications. C'est au patient d'utiliser l'état hypnotique afin d'accéder à ses ressources intérieures qui sont inexploitées. D'ailleurs, pour Erikson, qui était le créateur un petit peu de cette hypnose, l'hypnose en psychothérapie est une relation vivante entre deux individus, entre le patient et l'hypnothérapeute. Vous savez, l'hypnose est un sujet tellement vaste et varié, il existe tellement de manières différentes de pratiquer cet état et de manier les suggestions. Là, je vous fais un résumé très vulgarisé de ce qu'est l'hypnose. C'est juste pour rassurer les personnes qui ont encore des craintes et qui associent ça à l'hypnose de spectacle. Une chose reste importante lorsque l'on décide de faire appel à cette pratique, c'est de bien choisir son professionnel. Un professionnel avec qui on se sent en confiance. Quelqu'un qui va respecter nos valeurs, nos principes et qui arrivera à s'adapter à nos besoins. Personnellement, j'ai toujours aimé comprendre et apprendre et je pars du principe que la plupart des personnes sont peut-être comme moi. Et je suis émerveillée lors de chaque accompagnement, émerveillée de ressentir l'évolution de la voix, de vivre ce que vit chaque patient. Il me semble important que l'on soit maître de sa propre évolution. Ça me paraît vraiment nécessaire aussi de comprendre nos propres mécanismes, tous les mécanismes qu'on a mis en place et pourquoi on les a mis en place. Vous savez, toute notre construction jusqu'à l'âge adulte s'est fait sur l'apprentissage de ce qui nous entoure. Apprendre un métier, apprendre des langues, apprendre quoi faire, apprendre à le faire, à bien le faire, apprendre des théories, apprendre des pratiques, apprendre des cultes, apprendre et apprendre. La seule chose finalement qu'on ne nous a jamais enseignée et que l'on ne connaît pas forcément bien, c'est notre propre fonctionnement interne, le fonctionnement de notre subconscient. Car vous pouvez apprendre ce que vous voulez. Essayez de vous faire passer pour la personne que vous souhaitez. Si ce n'est pas en adéquation avec qui vous êtes vraiment, avec votre subconscient, avec votre âme, ça ne marchera jamais. Il y aura toujours un souci. Ça va se manifester par des crises d'angoisse, par des terreurs nocturnes. Le corps va parler à un moment donné. Vous serez malheureux parce qu'il y aura un décalage entre la personne que vous essayez d'être et ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Et tant que ces deux choses ne sont pas équilibrées, vous ne trouverez jamais de bien-être ou de bonheur ou de tranquillité. Et alors, petit à petit, tant que ce déséquilibre sera là, vous aurez forcément votre corps qui va parler. Votre système nerveux aussi va s'exprimer à un moment donné. Donc c'est important de prendre soin de sa santé mentale et physique. Ne l'oubliez jamais. J'espère avoir un petit peu rassuré les sceptiques. Et surtout, n'hésitez pas à vous renseigner. Prenez rendez-vous peut-être avec un professionnel. Posez-lui toutes les questions qui vous passent par la tête. En tout cas, moi je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de force. beaucoup de courage et de bienveillance envers vous-même. Déjà, commencez par vous donner tout ça à vous-même. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.